J'ai réduit totalement ce qui
soit.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Depuis un certain temps, le gouvernement congolais a initié la vente des produits agricoles du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Certains points de vente de ces produits ont été installés à travers la ville de Kinshasa pour permettre à la population de s'approvisionner en maïs. Une activité pas bien vue au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui a récemment invité l'État à se décharger notamment des activités de production agricole au profit des initiatives privées. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour un échange en direct. Les débats, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Ce magazine est mis en onde par Dieudonné Nyangasa, Julie Feza est au standard. J.R. Ndiembo est à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la Meji vous les présente sous la supervision de Martin Sabujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amé.
Rappelons que la Fédération des entreprises du Congo a tenu le mercredi 25 mai 2016 l'Assemblée générale ordinaire à l'hôtel Sultani ici à Kinshasa et au cours de ses assises, la FEC a proposé au gouvernement d'appuyer le secteur agricole en privilégiant la productivité et la transformation des produits locaux. Pour plus de valeur ajoutée pour la FEC, l'État doit se décharger des activités de production au profit de l'initiative privée pour se consacrer aux infrastructures collectives et à la promotion des activités sociales. C'est dans ce cadre que la FEC a fustigé des millions de dollars qui ont été investis dans le projet du parc agricole agro-pastoral de Bukangalonzo, estimant que ces parcs consomment mensuellement des millions de devises sans aucun impact sur la production agricole. Alors, comment arriver à privilégier l'initiative privée dans la production agricole par rapport aux projets investis par l'État? C'est la question au centre de notre échange dans Parole aux auditeurs. Amos, vous nous appelez de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les peuples congolais, bonjour aux différents intervenants qui vont intervenir ici là. En fait, nous tenons d'abord à encourager notre gouvernement pour cette initiative qui permet d'abord à la population de s'approvisionner en produits de première nécessité. Ce que la FEC n'était pas bien digéré, étant donné qu'il y a concurrence de marché. Mais la grande question qu'on peut se poser, est-ce que depuis que le gouvernement a lancé ses produits sur le marché, il y a eu baisse de prix, oui ou non? Parce que s'il n'y a pas eu baisse de prix, ça montre que jusque-là, le gouvernement n'a rien fait par rapport aux attentes de la population. Mais toutefois, je voulais signaler que notre gouvernement ne doit pas se contenter de ce qu'il a déjà fait à Kinshasa par rapport aux produits de Bukangalonzo, parce que Kinshasa n'est pas toute la République démocratique du Congo. Et ceci, moi, je peux considérer ça comme étant un échec du gouvernement, 15 ans après qu'il est au pouvoir, qu'on se contente seulement de Bukangalonzo. Et pourtant, toute la République du Congo aujourd'hui est en difficulté pour ce qui est de l'alimentation. Rare, vous comprenez, M. Pierrot, que rares sont les familles qui peuvent manger aujourd'hui deux fois par jour. Il y a beaucoup de familles qui mangent rarement une fois par jour. Beaucoup de familles passent la nuit ventre plein, étant donné qu'il y a problème de famine. Le dernier rapport de l'UNICEF venait dernièrement de placer notre pays au sujet de la malnutrition. Il y a 46% des enfants malnutris en République démocratique du Congo. Et sur la province du Sud Kivu, est à 53%. Vous comprenez que vraiment la situation demeure jusque-là catastrophique. Et pourtant, d'après les statistiques de la FAO, nous avons appris que bien exploiter les terres arabes en RDC peuvent nourrir plus de 2 milliards d'individus, soit les terres de l'humanité et peut-être la population actuelle de l'Afrique. Pour nous qui sommes dans la province du Sud-Kivu, nous avons vu dernièrement et à travers toute la République, le ministère de l'Agriculture avait acheté des tracteurs pour permettre d'aider l'agriculture d'avancer dans notre pays. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Vous allez comprendre qu'après avoir acheté ces tracteurs, beaucoup de ces tracteurs commencent à transporter le briques, transporter le fagot, le sac de manioc au détriment de l'agriculture. Nous nous demandons comment on est parti acheter des tracteurs, mais qui ne font rien sur le terrain. Et d'autres tracteurs traînent partout à travers la République, n'est-ce pas, absolument rien. Et c'est là que je voulais dire que le mal du Congolais ou le mal de notre pays, le Congo, c'est d'avoir des dirigeants qui initient des projets, pas pour aider la population, mais pour parvenir à se taper beaucoup d'argent, pour parvenir à trouver de l'argent au travers des projets qu'ils initient. Moi, je pense que ce que le gouvernement a fait au niveau de Kinshasa, c'est une question de voir si réellement le produit de Bukangalonzo répond valablement aux attentes de la population congolaise, parce que la fête qu'elle ne peut pas comprendre l'initiative qui a été prise par le gouvernement, étant donné qu'ils sont déjà habitués, les gens de la fête sont habitués à importer des produits qui viennent de l'étranger et qui vendent au prix exorbitant. C'est à travers de cela qu'ils se tapent de l'argent, c'est à travers de cela qu'ils parviennent au fait à gagner.
Mais vous avez à charger l'État en estimant que Bukangalonzo, ça reste pour Kinshasa. Il faut aussi de rappeler que la première expérience a été de 20 000 tonnes de maïs. Hein. Le besoin de consommation de maïs, c'est au-delà même de 20 000 tonnes parce que beaucoup de familles s'approvisionnent aussi ailleurs. Les maïs qui viennent de la province de Bandundu, du plateau de Bateke et aussi ça. Mais aujourd'hui, l'idée de la demande de l'APEC, c'est de ne pas que l'État ne puisse pas investir dans ses projets de production agricole. Mais c'est plutôt de faciliter, d'encourager et de financer l'initiative privée. Mais est-ce que dans la province du Sud-Kivu aujourd'hui, y a-t-il aujourd'hui des initiatives privées qui permettent quand même d'assurer la production agricole dans la province d'Amos?
Vraiment, non. Moi, je vis à Bukavu, dans la province, gestionnée dernièrement toute la province, les 8 territoires de la province, ce genre de projet n'existe pas. Et s'il y a des privés qui initient de tels projets, vous allez voir qu'il y a problème de surtaxation, de tracasserie, jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Moi-même, je vis, c'est cela que nous devrions dire, même la sécurité de Kiliba, dernièrement initiée, et la population était tellement contente, disant que non. Il y a déjà de l'emploi, mais aussi on sera en train de trouver des sites qui sont discutés au Kim. Mais on a vu les activités s'arrêter sans qu'on nous dise les causes. Même pour ce qui est de la cimenterie de Katana, vous allez comprendre que c'est le même gouvernement qui devrait encourager les initiatives privées qui est toujours à la base de fermeture de ces différentes initiatives de la part de la population ou de la part de ces gens-là qui veulent initier des projets en faveur de la population.
Merci beaucoup, Amos. Vous avez évoqué les cas des tracteurs. On doit quand même se le dire, nous avions tenté plusieurs fois d'organiser une émission d'évaluation avec le ministère de l'Agriculture pour savoir les plus de 700 tracteurs qui ont été importés, payés en Inde. Qu'est-ce que ces tracteurs sont devenus? Quel a été l'impact réel du travail de ces tracteurs à travers les provinces? On n'a pas vraiment senti ça. Et plusieurs fois, nous en avons parlé dans cette émission Parole aux auditeurs. Merci beaucoup, Amos. Vous estimez que l'État devrait étendre les activités du genre Bukangalonzo ailleurs, mais pourvu que ça puisse répondre aux besoins réels de consommation de la population. Merci beaucoup, Félicien. Vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et on sait, plusieurs fois, on a vu des fois des initiatives privées de l'agriculture vers les plateaux de basse intelligence qui se plaignaient qu'ils étaient en difficulté de pouvoir à trouver des financements. Il n'y a pas de banque de crédit agricole aujourd'hui. Mais le fruit, c'est de voir comment l'initiative privée peut être assez développée dans le secteur agricole pour permettre la production au-delà de ce que l'État a fait avec le projet Bukangalos. Comment on peut y arriver, Félicien?
Merci Pierrot, mais moi je dois dire à la fête que je ne peux pas comprendre sa préoccupation parce que quel que soit le régime économique ou le système économique pour lequel un pays a opté, cela n'empêche pas l'État d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Si l'État intervient dans les genres des activités comme Bukangalos, cela n'empêche pas l'État aussi de soutenir les initiatives privées. Et les deux ne sont pas incompatibles. Pourquoi ils doivent demander à l'État d'abandonner? Mais de toute façon, l'État a déjà tout abandonné depuis très longtemps. Et nous ne voyons même pas ce que la fait que ces soi-disant hommes d'affaires privés ont fait de ce pays. Et là où les gens pouvaient manger bio, au contraire, il a fait qu'on devait nous importer des chinchards et des histoires congelées qui ont beaucoup plus de problèmes les santé que les histoires que nous devions produire localement. Et là où on produisait, où nous étions premiers producteurs de café, premiers producteurs de quinquina, premiers producteurs ou deuxième producteur de l'huile de palme, ceci, cela. Mais l'État a abandonné ça et l'a fait qu'avec les opérateurs économiques privés n'ont rien fait de plus. Et les pays aujourd'hui dépendants de l'extérieur et nous n'exportons rien. Et maintenant, si l'État veut faire quelque chose du genre Bukangalos, comme l'ont dit mes prédécesseurs, au contraire, il devait le faire dans tous les coins. Au contraire, si les moyens sont là, l'État devait lancer l'agriculture et l'élevage et que nous devions être en train de penser à l'exportation aujourd'hui. Mais de quel droit la tête va commencer à empêcher l'État de nourrir sa population ou de développer son pays et s'il en a les moyens? Moi, je crois que c'est de la distraction. Ils savent bien que nous sommes en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Ils savent bien que nous n'avons même pas l'autosuffisance alimentaire dans ces pays. Et nous avons besoin de la production de tout le monde, même l'État, les privés, tout ça. Parce que nous avons vraiment un peuple qui peut consommer tout ce que nous pouvons produire. Nous n'aurons même pas le temps d'exporter ça. Quand nous voyons la démographie chez nous, comment ça évolue. Aujourd'hui, on est aux environs de 70 millions d'habitants, alors que le manger, c'est encore un problème. Alors qu'hier, on a déjà commencé à résoudre les problèmes du manger dans certains pays africains, et ils commencent à copier les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir nous parler de ces choses-là, de la FEC, qui vient nous vendre un carton de chaussures à 80-100 $, alors que les prix réels jusqu'à maintenant, ça ne dépasse même pas 20 $. Et c'est ça que la FEC fait comme travail pour aider le peuple congolais, et il vient maintenant commander l'État congolais. Le gouvernement doit comprendre qu'il est en retard, et il ne doit même pas écouter ces histoires-là de la FEC. Au contraire, il doit faire un effort pour que nous puissions rattraper ce retard et que nous puissions faire de ce pays un pays producteur et exportateur des biens de consommation et non pas un pays importateur comme nous le sommes aujourd'hui.
Mais Félicien, vous avez dit que nous sommes en retard sur le plan de beaucoup de choses. On était producteur de manioc, de canne à sucre, de ceci, de cela. Aujourd'hui, on n'est plus compté à travers le monde. Mais il y a quand même la responsabilité de l'État. C'est que la FEC souhaite, c'est que l'État puisse encourager l'initiative privée aujourd'hui. Mais on sait aujourd'hui les grandes difficultés que les gens ont, l'accès aux capitaux, la fiscalité, les tracasseries, tout ce qu'il y a comme problème qui entoure les producteurs locaux aujourd'hui. Quand les gens voudraient bien se lancer dans les activités des productions, on voit toutes ces difficultés. C'est pour cela qu'ils souhaitent que l'État, à un certain moment, puisse voir comment encourager l'initiative privée. On avait, comme je le disais, je venais de le dire tout à l'heure, la Banque des Crédits Agricoles, qui peut permettre à ceux qui ont des plantations puissent avoir avoir accès aux capitaux et qu'on puisse leur faciliter aussi l'évacuation de ces produits. Voilà, à ce niveau du débat, le rôle de l'État dans ces difficultés aujourd'hui des productions privées dans les secteurs agricoles.
Oui, je l'ai déjà dit, Pierrot, il n'y a pas d'incompatibilité que l'État puisse faciliter les initiatives privées et lui-même aussi prendre des initiatives dans le même sens. Il n'y a pas d'incompatibilité. Je dis que les deux sont faisables, mais on ne peut pas dire que ce que l'État fait est mauvais. Mais nous disons qu'il doit soutenir les opérateurs économiques privés, mais lui aussi peut faire quelque chose et les deux ne sont pas incompatibles. Merci. Parce que vous voyez, quand, nous savons déjà que c'est chez nous tout l'État fait payer cher la douane, l'État fait payer cher les impôts, il y a toute une litanie de taxes. Donc c'est ça que nous devons demander à l'État, de favoriser la consommation et de ne pas trop chercher à imposer des taxes, des impôts, la douane trop chère. C'est ça qui tue. Mais l'État peut aussi produire, même au bout de commencer avec le domaine de l'Antélé, le domaine de par-ci par-là, et qu'on continue avec le Bokangalon, par-ci par-là, et que les privés aussi ajoutent à ce que nous avons. Je dis que nous avons une population qui peut consommer cela.
Merci.
Et peut-être nous n'allons même pas exporter grand-chose parce que nous-mêmes nous n'avons pas encore l'autosuffisance alimentaire.
Merci beaucoup, Félicien. Vous pensez que l'ASPEC ne peut pas demander à l'État de pouvoir se décharger des activités de production agricole, il faut plus privilégier l'initiative privée, mais vous estimez que, vu le retard que nous avons, cela n'est pas interdit. L'État doit adoucir la fiscalité pour permettre à ce que les opérateurs privés puissent investir dans le secteur de l'agriculture, par exemple, mais aussi l'État, ses initiatives, comme on voit avec Daipen, comme on voit avec Bokangalonzo, tout cela doit concourir à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup, Félix. André, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour, André.
Bonjour.
Et aujourd'hui, quand on regarde le Kasaï Central dans son ensemble, c'était, on le disait tout le temps, grenier agricole. Y a-t-il aujourd'hui des initiatives privées qui sont soutenues par les secteurs publics qui permettent aujourd'hui aux gens de pouvoir développer les secteurs de l'agriculture dans la province?
Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie d'abord pour m'avoir accordé la parole ici à Kananga. L'idée telle que, d'abord, je commence par le prédécesseur, l'idée telle que initiée par le gouvernement avec le projet Lukangabonzo à Bandundu, c'est une bonne chose, mais par rapport à la production que vous venez de dire qu'il y a eu des retombées dans la ville de Kinshasa, pour moi ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan parce que le projet Lukangabonzo n'a pas des effets à l'intérieur du pays. Mais le cas particulier de notre province ici, nécessairement, le projet devait impliquer le ministère de l'Agriculture qui joue le rôle d'interface entre les agriculteurs multiplicateurs et le gouvernement. Je voudrais dire par là que, nécessairement, lorsque le projet de Kangabonzo est lancé, on devait, au niveau de l'intérêt du pays, plus particulièrement du Kasaï Central, se référer au centre de production agricole qui sont ici au Kasaï Central. Nous prenons le centre de Meka, le centre de Salou Chimba, et le centre de Dibaya au niveau du territoire même de Dibaya. Ce sont des grands centres à l'époque qui faisaient la production agricole par le projet Prodalo de longtemps. Mais lorsque le Kangabonzo est lancé maintenant, on devait nécessairement, au niveau de l'intérêt du pays, faire ce qu'on appelle les tâches doubles, c'est-à-dire récupérer ces anciens centres d'éducation centrale, comme tel que je les ai cités, les appuyer avec les engins qu'on a donnés à le Kangabonzo, et puis essayer de... parce qu'il y a des experts qui sont au ministère de l'Agriculture au niveau de la province, qui sont affectés à ce centre-là, qui chôment, et qui sont considérés comme des ressources humaines, qui doivent être utilisées avec le matériel qui viendrait de le Kangabonzo, ainsi que ça, pour pouvoir susciter la production au niveau du Kasaï Central. Mais, avec ce centre ici, autour de ce centre, il y a ce qu'on appelle le paysanat, qui est encadré par les associations paysannes, comme on a parlé des agri-multiplicateurs primaires, qui sont déjà les premiers bénéficiaires du projet, qui font le maïs, qui font le manioc, mais qui n'ont pas l'encadrement. L'encadrement peut venir que lorsqu'il y a l'appui de ce centre-là, avec le matériel didactique, avec l'appui financier. À ce moment-là, ça aura de retomber aux agri-multiplicateurs primaires qui sont dans les territoires de Liza, Dibaya, Demba, Mweka, ainsi de suite. C'est ce qui a fait maintenant que c'est par manque de cet appui-là qu'on a centralisé le projet de ce genre-là à Bandundu, qui a que de retomber dans la ville d'explication, mais tu n'as pas de retombées à l'intérieur du pays. C'est la raison pour laquelle la chance fait que persister et les paysans ne sont pas encadrés, abandonnant les propres forts. Et le ministère de l'Agriculture qui devait jouer le rôle d'interface dans cet encadrement est même exclu de ces projets-là. C'est ce qui fait que le savant ici au Kassai-Chom, les paysans tournent en rond, ne sont pas encadrés et les encadrés même qui sont dans ce centre-chom n'ont pas l'appui financier du gouvernement. Or, ils travaillent pour le gouvernement. Ce sont des causes-là qui entraînent que les greniers du Kassai ne reviennent plus à sa base, monsieur le journaliste.
André, si je peux vous retenir un peu, vous avez évoqué cette expérience. C'est vrai qu'au lancement du projet Bukangalonzo, le gouvernement avait dit qu'on allait étendre cela à travers le pays, hein, d'autres expériences à travers le pays. On attend encore aussi, jamais le Kassai est ciblé, le Sud Kivu, le Nord Kivu, bien d'autres provinces. Mais revenons quand même à ce qui a été évoqué tout à l'heure par notre ami Amos de Bukavu autour des tracteurs. Je crois bien, nous en avions parlé la fois passée dans Parole aux auditeurs, les Kassai centrales du temps du gouverneur, je crois bien, Trésor Kapoukou avait aussi bénéficié de ces tracteurs. Quand vous regardez la situation aujourd'hui dans la province, est-ce que ces tracteurs qui ont été distribués, parce que c'était l'idée d'encourager la production brevée, ont-ils été distribués? Y a-t-il eu des retombées de ces tracteurs dans la province, André?
Non, justement, je refuse catégoriquement, parce que pas de retombées. D'ailleurs, je voudrais épingler là-dessus, merci beaucoup. Les tracteurs ont été distribués, mais à quel genre? Lorsque les paysans, qui est le producteur primaire, qui devait bénéficier de ces tracteurs, qui devait être organisé, mis en regroupement de production, n'est-il pas profit de ces tracteurs? Les tracteurs ont parvenu à remettre aux députés provinciaux, qui sont élus par les mêmes producteurs là, qui se font des ONG de poste pour récupérer le tracteur et qui les utilisent pour le briques ainsi de suite. Comment la production? Ces tracteurs n'ont pas bénéficié aux producteurs qui est paysan. C'est parti dans les mains des politiciens. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de retombées sur ce projet-là.
Merci André. D'ailleurs, il serait mieux aussi qu'au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on ait quand même une question, une enquête pour qu'on sache cela a fait quoi, hein? Qu'est-ce que ça fait pour les plus de 700 tracteurs distribués quand même, qu'on ait des réponses et des explications autour de cette question. Merci beaucoup André pour toutes ces précisions. Vous êtes à Kananga au Kassai central. Jean-Séguy, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Jean-Séguy.
Oui, allô, je suis en ligne.
Vous êtes en ligne avec nous. Nous parlons de cette idée de l'Afrique lors de l'Assemblée générale qui estime que l'État devrait se désengager des activités de production dans les domaines agricoles, bien sûr, pour encourager l'initiative privée. Et l'État pouvait se consacrer aux grandes infrastructures comme les routes, par exemple, les sites agricoles, mais pour permettre aux privés qui vont investir et travailler de pouvoir évacuer leurs produits. Quel est votre point de vue, Jean Singui?
Merci beaucoup, monsieur le matin, pour la parole pour l'invité de ce sujet. Je voulais passer en dans ce sujet de notre ministère de l'Agriculture, Pêche et l'Élevage. Si c'était moi, en réalité, on supprimerait ce ministère-là. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses. Parce que le développement d'un pays, beaucoup de pays, on a connu cela à part de l'agriculture. Mais nous constatons que, si nous revenons sur le problème des distributeurs de facteurs, si on donne à tel ou tel autre province, on les donne avec particulier. Soit à un monsieur qui est investi dans le milieu ou une autorité quelconque, on prend les facteurs au lieu. Bon, au lieu de donner à la population qui en a besoin. C'est cela, si monsieur prend les facteurs, il travaille pour ses propres fins. Donc ça ne peut pas avancer le pays. Alors, autre chose, même si nous prenons, il y a certaines provinces, que nous en avons 26. Il y a certains projets qui sont plus loin, qu'on a commencé à discuter, d'autres n'ont jamais eu. Comment ils peuvent avoir ça? Parce qu'il y a toujours un clic de personnes qui sont considérées comme ceux qui ont le monopole d'avoir ici. Je prends par exemple le cas de ma petite de la province orientale, la province orientale, pour trouver précisément où on n'a jamais reçu aucun tracteur. Et là-bas, les habitants produisent juste pour manger. Là, ça ne va pas. Comment est-ce qu'il peut se développer? Le ministère de l'Agriculture devait avoir une regardant partout dans toute la République. C'est-à-dire qu'il y a un peu de facture. Donc voilà, qui a utilisé quoi? Qui a produit quoi à partir de ces facture-là? Mais il n'y a jamais une mission de contrôle.
Oui.
On est à quelqu'un qui fait une commission, il dit non, c'est une gaspillage inutile. Et si on doit faire le contrôle pour demander, c'est avec quoi on a donné autant de tracteurs. Qu'est-ce que vous avez produit? Combien d'hectares vous avez exploité? Quel temps de produits que vous avez sur le sujet de la haine, c'était fallu pour qui en a sa vérité. Alors, mais on donne, pourquoi nous sommes, je ne sais pas dire que dans la jungle, mais ça dit, chacun fait ce qu'il veut. Et après, l'année prochaine, on va encore donner d'autres tractés
et tout ça. Et tout ça, d'ailleurs, ça va constituer la dette, si ce n'est pas la dette, c'est le trésor public qui a acheté ces tracteurs, mais pour qui vous souhaitez aujourd'hui qu'on aille quand même des suivis, des contrôles, qu'on nous dise ce que cela a contribué, ça a apporté comme contribution dans le développement de l'agriculture privée. Merci beaucoup Jean Seigui. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi, notre ami André Descananga a évoqué le fait qu'il y a des députés provinciaux qui ont dû créer des ONG, des circonstances pour avoir des tracteurs. Et enfin, il n'y a pas eu des champs et ça n'a pas contribué à la production au soutien des initiatives privées dans le secteur agricole. Merci Jean Seigui. Sylvain, vous êtes à Bouya. Bonjour Sylvain.
Bonjour, bonjour à tous les Congolais. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler une chose, c'est que lorsqu'on fait un débat économique, il faut savoir si nous sommes dans quelle orientation. Il se pose une question des plans et de la politique agricole nationale dans ces débats.
Mm-hmm.
Est-ce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, nous avons une politique agricole nationale qui doit s'extender en politique agricole provinciale jusqu'au niveau des politiques agricoles qu'on doit appliquer dans les entités territoriales décentralisées. Donc, en fait, moi, je me dis que lorsqu'on regarde la réflexion de la PEC par rapport à cette préoccupation des projets agricoles au Congo, il me semble que nous n'avons pas tout simplement maîtrisé si l'économie congolaise est une économie dirigée ou c'est une économie capitaliste ou c'est une économie communiste. Donc, il faut que les gens essaient un peu de maîtriser d'abord les secteurs dans lesquels nous sommes. Mais moi, j'ai parié que en République démocratique du Congo, nous sommes pratiquement dans les systèmes dirigistes où l'État intervient, le privé intervient.
Mmh.
Donc, j'ai suivi ici les débats qui ont été lancés par les auditeurs qui m'ont précédé, et ce qui ressort d'une réflexion purement réaliste et bien pragmatique, puisque on ne peut pas empêcher aujourd'hui au gouvernement congolais de pouvoir développer une politique de la mise en place d'un grenier agricole national. Et d'ailleurs, cette histoire n'est pas seulement la nôtre. Regardez les Kenyans. Lorsque vous lisez la politique nationale agricole kenyane, vous vous rendez compte qu'on donne une place de choix au gouvernement, on donne une deuxième place au privé, et la troisième place est donnée aux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Et donc, il suffit ici de savoir que chez nous, en République démocratique du Congo, les plus ou moins 120 milliards d'hectares de nos terres arables en termes d'atouts et de possibilités pour faire une agriculture, non seulement de subsistance, mais une agriculture qui doit nous plonger dans la compétition économique internationale, il faut que nous puissions définir ce que nous devons faire. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Et c'est que, comme quelqu'un l'a dit, nous ne savons pas ce que nous voulons. Le gouvernement congolais met en place une politique qui essaye de produire des biens pour les Congolais, puisqu'il faut que je vous le dise, à ce qui concerne l'alimentation, le Congo est à la base de l'échelle. Je suis, disons, j'ai devant moi un travail qui a été fait par les étudiants de l'université de Sofoma de Bounia, de première licence en management. Qu'est-ce qui ressort dans la ville de Bounia? Nous avons 12 quartiers. Sur les 144 personnes enquêtées, disons, les 144 ménages enquêtés, dans les 12 quartiers, à raison de 12 ménages par quartier, il ressort clairement dans la conclusion des travaux de ces étudiants que 30% seulement des habitants de la ville de Bounia se nourrissent deux ou trois fois par jour et sur les standards peut-être internationaux en matière de la nutrition. Tandis que le reste des gens, soit ils ont un seul repas la journée, soit ils privilégient le repas de la nuit. Et donc, il faut qu'on se résigne tout en disant qu'il est tout à fait naturel que l'État congolais puisse booster le secteur de la vie.
Oui.
Mmh. Et non seulement booster le secteur de la vie, mais permettre que de ce premier secteur, nous arrivions au deuxième secteur, ça veut dire le secteur de l'industrialisation.
Puisque,
monsieur le journaliste, comprenez que, à la République démocratique du Congo, nous avons une implication désordonnée de tous les secteurs producteurs de l'économie. Et donc, il faut que nous puissions redéfinir les grandes politiques en matière de l'agriculture, ça veut dire le premier secteur, et c'est seulement la bonne combinaison des éléments de ce premier secteur peut nous ramener au deuxième, au troisième et au secteur quatrième. Voilà ma position et je pense que le gouvernement a tout à fait raison de le faire.
Merci beaucoup Sylvain. Vous souhaitez, vous le dites, l'État a toute raison de pouvoir initier des grands projets, mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est de rester dans la ligne de conduite de la politique nationale définie en termes de l'agriculture. On l'a vu avec la mise en place la fois passée des conseils de gestion, des cas qu'on a appelés la fois passée au niveau de la base dans la gestion de l'agriculture. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est tout ce que ces agriculteurs privés connaissent comme des difficultés dans l'accès aux intrants agricoles, l'accès aux semences est amélioré, mais le problème aussi des voies d'évacuation, tout cela doit s'inscrire dans cette politique globale au niveau national, ce qui doit être répercuté au niveau des provinces jusque dans les entités. Mais sinon, chacun risque d'y aller de sa façon et on aura toujours les mêmes problèmes de l'efficacité dans la lutte contre la sécurité alimentaire. Merci beaucoup Sylvain. 081-890-6314 si vous avez besoin d'intervenir en direct.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haut, débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Le débat autour de cette question, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, où Jean-Pierre Mandey, qui nous a écrit de Wamba au Ouélé, dit qu'il a fait qu'il a raison que les gouvernements puissent laisser la production agroalimentaire au privé, qu'il se focalise plus sur la réhabilitation des routes et des espaces agricoles. Comme ça pourra permettre aux producteurs privés d'évacuer leurs produits vers les centres de consommation. Hervé Moukoula de Kinshasa, nous avons constaté des points de vente de maïs de Bougangalozo à Kinshasa, mais bon, on s'est dit c'est une goutte d'eau dans la mer vu les besoins de consommation à Kinshasa. John Moala pense aussi que l'État devrait initier ce genre de projets à travers l'ensemble du pays. Et Eli Lokwa de Mbandaka estime qu'on ne peut pas tout contester. À un certain moment, il faudrait que les opérateurs privés puissent travailler avec l'État pour l'amélioration des climats des affaires et pouvoir investir là où ils veulent dans la production agricole. Bob Malo, Timothée estime que ce que la PEC dit est vrai, mais cependant, le gouvernement congolais doit prendre la promotion à promouvoir l'initiative privée en assumant certaines responsabilités, permettre à la population d'accéder à certains crédits et capitaux qui peuvent leur permettre à la population de s'investir dans les différents domaines d'activité, surtout les domaines agricoles. Cyril, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Cyril.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à la radio Capi et bonjour à tout le peuple congolais.
Donc vous écoutez.
Vous savez, je voudrais rappeler à l'opinion ceci, que la meilleure banque c'est la terre, c'est-à-dire de la terre à la table. Moi j'encourage toutes les initiatives privées qui évoluent dans le secteur agricole. Mais à condition que toutes ces initiatives privées doivent répondre à certaines exigences et critères pour que l'État congolais intervienne dans leur secteur à l'instar du Bougangalozo. Vous savez, monsieur le journaliste, je voudrais rappeler de prime abord ceci que l'État est là pour la relance économique et surtout sur la relance agricole. Les projets les plus intéressants sont ceux qui poussent les gens à travailler ensemble. Lorsque ces projets deviennent leurs projets et que l'on se trouve face à un partenaire décidé, sérieux et tenace, c'est vraiment le nec plus ultra que ces projets agricoles soient un réel atout pour les agriculteurs parce qu'ils s'adaptent à leurs nouveaux besoins dans la recherche d'innovation et des solutions nouvelles. En facilitant bien sûr l'approche de leurs projets et leurs relations avec les autres catégories socio-professionnelles et en créant des opportunités de projet. Vous savez, mes solidaristes, tout ceci c'est dans l'intérêt d'éradiquer la crise alimentaire et la crise économique dans notre pays. Mais il faut voir dans toutes ces initiatives privées-là, tout ce qu'ils font là, c'est comment ? Est-ce qu'ils ont des problèmes, les causes et les effets et les solutions même qu'ils recherchent dans ces initiatives privées ? monsieur le journaliste. C'est vrai, vous savez, il y a une prolifération des objets, des structures qui naissent comme des champignons dans notre pays, parfois qui ne respectent pas leurs règles prérequis pour qu'ils soient exactement financés, appuyés, et que le gouvernement aussi essaie de pouvoir laisser tout ce qu'il fait là pour qu'il, en fait, pour qu'il donne l'opportunité à ces équipes libérales. Je prends l'exemple. Vous allez me voir aussi. Allez-y, c'est surtout la privée là. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont dans un désordre plus tellement avancé. Ils veulent quoi? Que de financement. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est bien que l'État laisse la place à ces entités privées de pouvoir évoluer. Mais il faut d'abord commencer à voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que ce qu'ils font là va réellement être dans la même diapason que l'État ou pas, monsieur le journaliste? C'est ça le grand problème.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ces villes, là, vous êtes dans les bandes d'entreprise, pensez-vous aujourd'hui que l'État congolais puisse permettre aux acteurs privés dans les domaines de l'agriculture l'accès aux capitaux, l'accès à l'importation aujourd'hui des plantes à améliorer? C'est ça aussi la question qui se pose. Les gens disent que oui, mais l'État peut initier, Bukangalo, c'est bien, mais il faut aujourd'hui permettre aux privés qui évoluent quand même il y a un an dans le secteur de l'agriculture de pouvoir produire, de pouvoir évacuer leurs produits. Parce que vous, aujourd'hui, dans les Bandundu, vous avez des gens qui travaillent concrètement aujourd'hui dans les secteurs privés de la production agricole qui sont soutenus par l'État en termes des semences, en termes d'accès aux intrants, en termes d'importation, par exemple, de matériel de travail d'une manière facile aujourd'hui, Cyril.
Oui, je peux vous rassurer que je prends pratiquement l'exemple simple. Le gouvernement provincial actuel, chapeauté par le gouverneur Godil Kinyoka Kabalumuna et son vice Nicolas Bulukungo Berankai. C'est vrai, ils laissent la place aux initiatives privées. Ils vont même visiter ces équipes privées-là. Ils arrivent même à encourager les équipes privées-là. Au fond. Mais, je ne sais pas, monsieur le journaliste, mais il se pose un problème. Cela ne suffit pas que parce que le gouvernement provincial a l'œil là-dessus, que le gouvernement provincial ne peut pas commencer de temps en temps à ne pas suivre ce qui se passe là-bas et laisser la place à ces initiatives privées. Là, c'est impossible, parce que si ça réussit, c'est bon. Mais si ça tourne mal,
dans la collaboration. Merci beaucoup, Cyril. Le professeur Ignace, vous êtes à Colibri. Bonjour.
Bonjour Pierre, merci beaucoup pour la parole. Je pense que le problème de l'agriculture, c'est un très très sérieux problème dans notre pays. Disons que par rapport à la thématique, la position de la presse est trop pessimiste. Laissez-moi dire que il faut considérer deux aspects. D'un côté, l'État devait continuer à s'impliquer dans le domaine de l'agriculture, tout en laissant une ouverture aux initiatives privées. Le projet Bukangalonzo, à mon humble avis, n'est pas une mauvaise chose. Je crois que l'État a donné l'exemple et dans sa philosophie, cela doit continuer jusqu'à la base. Mais je suis encore gêné par le problème de la mission même du ministère de l'agriculture, celle qu'on constate le comportement à la base. Il semble, quand on regarde bien, que le ministère de l'Agriculture est réduit à la base à un service de perception des taxes sur les produits agricoles que des paisibles citoyens produisent sans qu'ils ne soient assistés à proprement parler par l'État. Je crois qu'on doit réajuster et recadrer le tir en considérant, donc en encourageant l'initiative du privé. Et ici, je pense aux paysans. Et en implantant un peu partout les banques de crédit agricole. Je pense que cette structure est très très importante. À ce moment-là, la base serait impliquée dans la production, mais en laissant les grands producteurs venir investir dans ce domaine pour permettre que l'État puisse combattre la carence en denrées alimentaires. Donc, je vais simplement dire que l'État ne va pas empêcher les privés, ou n'empêche pas les privés en se lançant dans les travaux comme il est du projet de Bukangalonzo. Il n'a jamais été dit qu'en faisant cela, et les privés étaient empêchés ou refusés à le faire. D'ailleurs, c'est une bonne chose, cela créerait une certaine concurrence sur le marché pour équilibrer et combattre les abus des producteurs au cas où l'État ne serait pas impliqué dans la chose. Les erreurs dans la gestion des tracteurs hein, et d'autres mini-projets tels qu'on les a constatés sur le terrain, je crois que ne constitue pas un motif pour refuser à l'État de faire cela. Ce sont des choses qu'on doit corriger pour qu'à la longue, on puisse arriver à améliorer. Donc, moi, je plaide pour l'implantation des banques de crédit agricoles et l'encouragement des privés, mais que l'État aussi s'implique. Je pense ici, par exemple, au projet de Kanyama-Katete du temps de M. Laurent Désiré Kabila. C'était une très bonne initiative. En créant cela, non seulement on est arrivé à résoudre certains problèmes de carence alimentaire, mais aussi la création de l'emploi. Voilà à peu près ce que moi je voulais ajouter.
Et d'ailleurs, si vous vous retenez, peut-être il y a quelques secondes, professeur Ignace, on a eu plusieurs émissions quand on a évoqué la situation des Bukangalongs où les ingénieurs agronomes s'est plaignaient qu'ils n'étaient pas assez impliqués dans ce genre de projet. Et d'ailleurs, la remarque c'était que plus de 70% des ingénieurs agronomes vivent à Kinshasa, hein, en ville, alors qu'il y a des problèmes sérieux à la base. C'est parce qu'il y a un problème de sous-emploi, ils ne sont pas assez employés. Pourquoi? Parce que il y a ces faiblesses au niveau du ministère de l'Agriculture, comme vous avez dit. Hein, ça, c'est vraiment réel aujourd'hui. Mais dès lors que ces ingénieurs agronomes sont concentrés à Kinshasa, qu'ils ne sont pas déployés en province parce qu'on ne sait pas comment on peut les utiliser au niveau du ministère de l'Agriculture, le problème va se poser en termes d'encadrement de ceux qui peuvent avoir des initiatives privées en province, professeur.
D'ailleurs, vous allez me permettre de placer un petit mot avant de terminer. Ce projet-là est très, très important. Il y a aussi une implication avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'en implantant, n'est-ce pas, les différents projets à la base, en encourageant les privés à venir investir dans ce domaine, cela peut susciter aussi la création des écoles de formation en agriculture pour aussi enrichir davantage ce secteur-là, comme on le constate. C'est vrai que les gens veulent aller en ville, c'est parce qu'à la base, il n'y a rien dans ce domaine qui est exploité, qui est encouragé. Voilà.
Merci beaucoup, professeur Ignace de Colouzi, dans la province de Lualaba. Antoine, vous nous appelez de Mozambique, et précisément dans quelle ville, Antoine? Bonjour.
Bonjour. Je suis à Niamane.
Voilà. Et vous avez suivi le débat depuis le début, c'est l'implication de l'État dans la promotion du secteur privé dans les domaines de la production, disons, agricole. Quel est votre point de vue à ce niveau du débat, Antoine?
Oui, je voulais dire ici, bien sûr que l'initiative du gouvernement en soi n'est pas une mauvaise idée. Surtout en cette période où la population souffre beaucoup de l'insuffisance et de la carence alimentaire. Mais il faudrait se dire une chose que, au-delà de cette idée, il faudrait quand même que les gouvernements puissent aussi aider les secteurs privés à pouvoir s'épanouir. C'est-à-dire que les deux projets, l'initiative de l'État et l'État aussi le privé, ce n'est pas une mauvaise chose. Mm-hmm. Mais tout doit être un peu équilibré. Parce que par le temps, par la suite, effectivement, si on voit que peut-être que le secteur privé devient de plus en plus consistant, et à ce moment-là, l'État se désengagerait directement de ces initiatives de l'État, pratiquement la place au privé pour pouvoir exploiter les données.
Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Vous êtes à Niambane, au Mozambique. Vous avez dit que c'est important. L'État ne peut se désengager qu'au cas où il se rend compte que le secteur privé est assez renforcé. D'ailleurs, le président de l'AFEC, dans son discours, lors de cette assemblée générale de l'AFEC, il a dit qu'il n'y a pas de secteur privé fort dans ces pays aujourd'hui qui peuvent évoluer sans accompagnement de l'État. Et vous souhaitez que l'État ne peut se désengager dans la production que quand on aura un secteur privé assez fort. Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir appelé de Mozambique. Maître Armel, vous êtes à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bonjour, maître.
Bonjour, monsieur.
Et pour vous, aujourd'hui, à Goma, dans l'Interland, pensez-vous que le secteur privé est assez encouragé, efficace dans la production agricole?
Je voudrais passer mon intervention en donnant, disons, quelques précisions, parce que j'ai suivi parmi les intervenants qui m'ont précédé, il y en avait un qui a parlé du système économique dans lequel évolue notre pays.
Mm-hmm.
Je pense à moi-même de la vie que j'ai dû me retrouver en être dans un système d'économie mixte, parce qu'il y a certains secteurs où l'État fixe le prix pour certaines matières stratégiques, mais pour d'autres, l'État laisse le libre choix de fixer le prix aux initiatives privées, disons, ou aux commerçants pratiquement. Et à ce niveau-là, dans ce type d'État, je crois que ce n'est pas mal si l'État, en plus de jouer son rôle policier, de réglementer, de voir si le prix a respecté, le taux fixé a respecté, disons, la structure de prix qui a été proposée par lui, l'État, c'est un État aussi entrepreneur qui doit pouvoir aux besoins. Parce que quand on classe la RDC comme étant, je ne sais pas, 15e nation en matière d'alimentation et qui respecte que la population vit dans une famille, ce ne sont pas des opérateurs privés qui vont répondre, monsieur. C'est l'État en premier qui répond. Et donc, à ce titre-là, l'initiative est louable. Mais il faut dire que il faudrait quand même que la gangrène qui rentre et qui handicape la plupart des initiatives prises par l'État dans notre pays, puisse être l'État est un vigilant, disons, par rapport à ça. Et c'est la mégestion. Aujourd'hui, le parc agro-industriel de Bukangalien a produit, a mis sur le marché sa première production, c'est une bonne chose, mais au bout de 5 ans, on peut ne plus produire, parce que c'est l'habitude au Congo, on lance des codes d'initiative, mais à un certain moment, les choses sont bloquées par négociation. Donc nous encourageons cette initiative-là, et d'ailleurs la réaction de la FEC, on fait encourager l'État. Cela montre et prouve à suffisance que c'est que certains opérateurs économiques de l'Afrique avaient considéré comme une chasse gardée pendant longtemps et aujourd'hui mis en danger par cette initiative de l'État. Donc l'État, le résultat escompté, disons, à long terme, qui serait la réduction des coûts pratiqués par les opérateurs privés et l'accès à la population à, disons, à une nourriture et à des denrées alimentaires à des prix abordables. Peut-être atteint. Donc, c'est une initiative d'encourager le temps de départ.
Merci beaucoup, Maître Armel. C'est important. Nous sommes dans une économie mixte. Hein. Il y a des domaines exclusifs d'expression des prix par l'État, mais aussi l'État laisse l'initiative au privé. Mais vous estimez qu'on peut évoluer avec les deux. D'un côté, les systèmes de l'État comme Bukangalonzo, mais qui doivent s'inscrire dans la durée et dans le temps. Pas des projets pérennes, des fois, des projets qui disparaissent après une certaine période. Mais d'un côté, il faut encourager l'initiative privée à pouvoir aller jusqu'au bout. Nous avons les deux auditeurs qui sont encore en ligne. Peut-être qu'ils pourront constituer le dernier virage plutôt pour terminer cette émission. Simon, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Simon.
Bonjour, monsieur Zier.
Vous avez suivi les uns et les autres. Comment vous appréciez ces souhaits de l'Afrique qui souhaite que l'État puisse se désengager des activités de production pour se consacrer plutôt à encourager l'initiative locale dans cette production agricole?
Bon, pour moi, d'abord, je ne souscris pas pour cette initiative-là de l'Afrique, parce que l'Afrique, comme le disait mes prédécesseurs, l'Afrique, tout ce qu'elle importe ici, ça ne résout rien, à rien. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que natif fils de Bukangalonzo. Je suis de Bukangalonzo. Je vois ce que fait le parc là-bas chez nous. S'il fallait apporter ma contribution, je pense que l'État, les initiatives comme ça, c'est presque comme les agro-business, comme le disaient mes prédécesseurs. Les agro-business, souvent, ne résout jamais les problèmes des autochtones. Si on parle aujourd'hui, si on veut marcher sur l'agriculture contractuelle, si on peut parler d'un monde sans fin, si on veut arranger la situation alimentaire de la population congolaise et en particulier de Bukangalonzo, je vous confirme que nous à Bukangalonzo, on ne sent pas l'impact de cette histoire-là. Mais aujourd'hui, comme le disait un de mes précédents, vous sentez qu'à Bukangalonzo, il y a à côté de ce parc, nous voulons bien le parc, mais à côté de ce parc, il y a des petits centres agricoles, mais ce n'est pas les luxembourgeois. Et pourquoi ne pas peut-être subventionner ces deux centres-là? Pourquoi ne pas peut-être regrouper les villages en des regroupements et que l'État subventionne ces regroupements-là? Je pense que ça pourrait résoudre la situation alimentaire dans notre pays. Mais avec ce que fait le pacte, si à Bukangalonde de nous-mêmes, nous ne sentons pas ça, comment se fait-il qu'à Kinshasa ou ailleurs dans toute la République sera senti? C'est ce que je vais vous dire par là, que nous verrons tout de suite de l'Afrique de l'Ouest, là où on voit l'agriculture contractuelle.
Mm-hmm.
Mais c'est, on subventionne le regroupement, on subventionne les villages. Et là, les villageois se retrouvent et le pays en entièreté va se retrouver. Ça va résoudre quoi ici à Kinshasa?
Voilà, Simon, vous avez complètement raison, parce que vous avez raison, la FEC estime que 50 millions de dollars ou 80 millions ou 10 millions ou 20 millions que l'État peut investir dans sa production, il pourrait facilement prendre cet argent et subventionner les producteurs locaux, c'est ce que vous avez souhaité, parce qu'il y a à Bukangalonde dans le parage, il y a d'autres centres, il y a aussi des producteurs dans les bandes d'où l'État pouvait prendre cet argent, éclater ça en projet de financement des initiatives privées pour réussir l'agriculture. Merci beaucoup, Simon. Arsène, vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. Bonjour, Arsène.
Bonjour, Monsieur Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio, Papi.
Au-delà du fait que c'est normal, les points de vue sont partagés en fonction de ce qu'on pense qui peut être plus possible aujourd'hui pour permettre à ce que le secteur de l'agriculture puisse être assez rentable, quel est votre point de vue?
Mon point de vue est simple. Vous savez, Pierrot, tout peut se faire si on a une bonne politique de développement. La politique de développement est à partir du ministère de plan qui fait un plan national du développement. Alors, les initiatives privées, tant que les initiatives privées sont mises en exergue et que l'État veut faire quelque chose que je considère comme propagandiste ou juste publicitaire, là, ça ne marche pas. Nous avons vécu dans ces pays depuis nos ancêtres. De quoi nous vivons? Nous vivons de notre propre production. Mais maintenant, si le gouvernement et la FEC ensemble peut élaborer un plan de développement qui peut permettre aux simples citoyens qui ont des initiatives d'avoir plutôt une bonne politique et de moderniser l'agriculture que nous avons, nous pouvons faire un pas en avant. Parce que quand vous voyez bien tous les calculs faits sur le plan de développement agricole, ça donne 5 ans. En 5 ans, nous pouvons résoudre le problème que nous avons, parce que nous avons des terres fertiles, nous avons de la semence, nous avons la main-d'œuvre. Ce qui nous manque, c'est juste la technologie et la mécanique. Il suffit seulement que l'État puisse subventionner ce secteur, je crois que ça peut marcher. Mais alors, ce qu'il faut faire au départ, c'est de dépolitiser toute cette stratégie, parce qu'aujourd'hui, si l'État veut investir, c'est un parti politique ou un regroupement politique qui prend comme si c'était l'initiative de ce parti seulement et que les autres ne savaient rien faire. Et quand nous allons sur cette ligne-là, de plus, nous échouons. Tel que le cas de Bukangalonde. On a trop parlé, on a fait de propagande, on a gaspillé de l'argent pour faire croire que Bukangalonde pouvait résoudre le problème du Congo. Pourtant, je suis de mon prédécesseur qui est originaire de Bukangalonde. Qu'est-ce que Bukangalonde a réussi? Mais alors, si on pouvait aller vers ces gens, les autochtones, leur dire, écoutez, voilà, vous avez du carburant, vous avez la mécanique, avec vos initiatives, allez-y vers l'avant. Je crois que ces gens, aujourd'hui, ne pouvaient pas aller gaspiller tous ces millions-là eux seuls. On pouvait partager ça sur une grande étendue et avoir une bonne production. Et je crois que l'État doit laisser ce secteur tranquille, donner de belles initiatives et encourager la population à plus produire. Voilà un peu ma contribution dans cette émission.
Merci beaucoup, Arsène. La question de la dépolitisation de produits, la dépolitisation des actions qui doivent être initiées par les gouvernements, elle est importante. Vous estimez qu'il faut éviter les caractères propagandistes des projets qui sont initiés par l'État, mais au-delà de tout, tout ne peut se faire que quand il y a un plan de développement bien défini. Et là, l'État peut travailler avec les patronats. C'est la vérité de la FEC. Tous les experts peuvent travailler pour pouvoir définir un plan de développement agricole qui intègre aussi l'accès aux technologies et à la mécanique, parce que vous estimez qu'il y a la terre, elle est là, les compétences sont là, il faut accorder ces moyens et éviter le folklore autour des projets qui sont initiés par l'État. Merci beaucoup, Arsène. Maître Olivier, vous êtes à Gbadolité. Bonjour, maître. Maître Olivier, bonjour. On a des petits soucis des lignes avec Maître Olivier des Badolité. Nous avons au tax Moulikouza qui nous a écrit de Matete dans la province de Maniema. Actuellement, tout étonne tout le monde car impossible et inacceptable que quand on veut embellir les gouvernements, nos dirigeants ne nous parlent qu'à cela, à commencer où tout s'est passé dans la ville de Kinshasa. Alors, le problème aujourd'hui, c'est pas seulement à Kinshasa, le besoin, c'est à travers le pays. Est-ce qu'on peut initier des projets et pouvoir les étendre aussi à travers le pays? Alain Bolodua estime pour sa part qu'il faut une analyse profonde qui doit être faite sur le projet Bukangalonzo qu'il considère comme monstre d'une manière économique. D'après les statistiques rendues publiques par les gouvernements, ce projet dispose de 80 000 hectares de terrain exploitable, des prix de 140 millions d'autres capitales. D'après les statistiques d'exploitation, 20 000 tonnes de maïs ont été produites lors de la première campagne. Pour ce faire, 5 000 hectares seulement ont été exploités, soit 4 tonnes par hectare. Une tonne de maïs est vendue sur les marchés à prix de 650 dollars américains. Les 20 000 tonnes sont donc rapportées à peu près 1 300 000 dollars. En intégrant les paramètres temps, je peux affirmer sans crainte d'être contredit que le parc agro-industriel n'a pas connu une évaluation intéressante qui doit répondre aux exigences économico-financières. Je crains qu'il ne survive grâce au suivi de l'État. On va écouter Joséphine qui est à Boston. En une minute, madame, nous parlons du développement de l'agriculture avec l'initiative privée. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre point de vue en une minute, Joséphine, bonjour.
Mon point de vue, c'est que le sujet d'aujourd'hui et le sujet d'hier, c'est presque la même chose.
Mm-hmm.
Ça montre déjà que le gouvernement, le premier ministre ne dirige pas, il n'a pas la même mise sur tout. On parle des résultats de Bukangalonzo, on parle qui contrôle qui a contrôlé ces résultats-là. Je demanderai à notre gouvernement, il y a quelqu'un qui a appelé de Kassai Central.
Mm-hmm.
Ce sont des gens comme ça qu'on doit donner le programme agricole. On doit donner le progrès. Je ne peux pas refuser que ce que Bukangalonzo a fait, c'est mauvais. Mais on est dans le besoin. Hein? La population a besoin de maïs. On est dans le besoin, mais l'État doit aller dans des milieux ruraux. Hein? C'est le milieu ruraux qui va amener la nourriture à Kinshasa, dans des grandes villes.
Mm-hmm.
Ce n'est pas le contraire. C'est quand la grande ville commence à amener la nourriture dans le village,
mm-hmm.
c'est la nourriture importée. Mais le contraire, ça sera l'agriculture locale et puis qui va amener les histoires dans des villes.
Merci beaucoup, Madame Zézikine, de nous avoir appelé de Boston. Vous souhaitez qu'il y ait d'abord le contrôle sur ce qui se fait à Bukangalonzo, mais que l'initiative parte de la base, en milieu rural, et comme ça, on peut remonter avec la production jusque dans le centre de consommation. Merci à tous. Vous avez été nombreux pour intervenir dans cette émission et aussi les débats qui continuent sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Merci à toute l'équipe de production. Jérôme Nguyenbo était à la réalisation et la coordination. Jérôme Nguyenbo a assuré la mise en œuvre de ce magazine et Jérôme Fezabongonda a été au standard. Et sur la page Facebook et Péro, mais je vous la présente sous la supervision de Marcel Sébouzangoué. Fidèle auditeur, parole aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiotapi.net. Au revoir.